savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Ce samedi, nous vous emmenons en enfer. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Tremblez auditeurs et auditrices, frissonnez car ce samedi est consacré aux fantômes japonais, vampires chinois ou revenants affamés thaïlandais. À l'occasion de l'exposition Fantômes d'Asie au musée du Quai Branly, nous recevons son conseiller scientifique pour le cinéma, Stéphane Duménildo. À l'affiche également de notre cinéma cette semaine, les dinosaures de Jurassic World, une femme fatale et inventeuse du Wi-Fi, Eddie Lamar, et la sortie du film Lieto en Russie. Mais on commence par embarquer Elisabeth pour notre tour du monde de la planète cinéma. Première étape, Annecy où le festival d'Annecy ouvre ses portes ce lundi.
Oui, Annecy, le festival de référence pour l'animation qui fait cette année un focus sur l'animation brésilienne, des tables rondes consacrées entre autres à la présence des femmes réalisatrices dans le monde de l'animation, avec de la réalité virtuelle et puis comme toujours Sophie, des ateliers de coproduction avec une forte présence africaine cette année, des projets qui viennent du Cameroun, d'Afrique du Sud et même un projet malgache, l'arbre à palimpseste.
C'est la faute à l'autre là.
Dumbo, il y a quoi encore?
C'est Sika, elle nous commande trop, genre seule la chef et tout.
Et pourquoi pas?
T'as déjà vu une chef de village ici?
Je vois que vous n'avez jamais entendu parler de Ngolamandi Zingamandi.
L'arbre à palimpseste. Donc une série de 52 épisodes qui suit Mamie Palimpseste qui passe ses journées sous un arbre où en fait elle raconte les histoires de grands personnages de l'histoire africaine comme Haïlé Sélassié ou la Kaena. Donc l'arbre à palimpseste, donc c'est une série signée Ingrid Agbo et Sacha Perrin-Bayard qui sera présentée à Annecy la semaine prochaine.
On reste dans l'animation avec un anniversaire, hein, 65 bougies pour Peter Pan.
Il suffit d'y croire dur comme fer. Et juste un peu de poussière d'atmosphère. Nous partons!
Peter Pan a 65 ans, c'est un comble Sophie pour ce personnage qui célèbre le monde de l'enfance, un personnage créé en 1904 en fait par l'écrivain écossais J.M. Barrie et à qui Walt Disney a donné son premier avatar cinématographique il y a 65 ans, donc en 1953. C'était une idée de génie parce que le film a cartonné et a permis au studio de rétablir ses finances après l'échec de Cendrillon.
On reste dans le cinéma américain avec cette fois-ci Brian De Palma qui prépare un film inspiré de l'affaire Weinstein.
Oui, alors Weinstein, c'est ce producteur américain, on en a parlé à maintes reprises dans l'émission, accusé de viol et de harcèlement sexuel par des centaines de femmes. Et Brian De Palma, qui en ce moment même à Paris, à l'occasion de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française, s'est intéressé de très près en fait à l'affaire Harvey Weinstein et au mouvement féministe MeToo. C'est ce qu'il a confié à notre collègue Catherine Fruchon-Toussaint.
Everybody knew about this for decades.
Voilà, je traduis Brian De Palma. Tout le monde connaissait les agissements de Harvey Weinstein depuis des dizaines d'années. Tout le monde connaissait ces histoires. Et tout ça grâce à la ténacité et au courage d'un jeune cinéaste qui arrivait à convaincre des actrices terrifiées de témoigner. Il faut applaudir le courage de ces femmes, dit Brian De Palma, parce que la plupart du temps, ce genre de témoignage met fin à votre carrière.
Brian De Palma au micro de notre consoeur Catherine Fruchon-Toussaint. Titre du film qu'il prépare, Predator. Il sera produit par le français Saïd Ben Saïd, car, a déclaré De Palma, aucun producteur américain n'en voudrait. On part cette fois en Russie, où vient de sortir le film que nous avions adoré à Cannes, Lieto, de Kirill Serebrennikov, et sa description de la scène musicale rock de Leningrad au début des années 80. Cette sortie se déroule dans un contexte particulier puisque le réalisateur est assigné à résidence depuis le mois d'août dernier. Il est accusé de détournement de fonds et du coup, Kirill Serebrennikov a dû terminer le montage de son film depuis son domicile. Il n'a pas pu se rendre à Cannes, où donc Lieto était en lice pour la Palme d'Or. On écoute le reportage à Moscou de notre correspondant Daniel Valo. Daniel, que nous retrouvons juste après pour en parler.
Le film s'ouvre sur des images en noir et blanc et sur la reconstitution d'un concert clandestin à Leningrad au tout début des années 80. Lieto retrace l'histoire de deux icônes de la scène rock quelques années avant la fin de l'URSS, une période qui a marqué toute une génération. Dans les années 80, j'étais trop petit, mais j'ai écouté cette musique toute ma jeunesse, nous raconte Sergueï, venu avec sa femme à l'avant-première du film. Tous mes goûts musicaux viennent de là, nous dit-il, et puis bien sûr, il y a cette liberté qu'ils incarnaient. Pour moi, ce film a aussi une grande importance de ce point de vue. Pour de nombreux spectateurs, il fallait venir voir ce film également en soutien à son réalisateur. À leurs yeux, l'assignation à résidence de Kirill Serebrennikov est une injustice, une façon, disent-ils, de faire taire l'une des figures de l'avant-garde culturelle en Russie.
C'est vraiment très triste que nous ne puissions rien faire. La France, les États-Unis et les pays européens, tous ces pays ont dit qu'un réalisateur ne devait pas être assigné à résidence. Pour l'instant, tout ce combat n'a servi à rien, mais il faut continuer.
L'assignation à résidence de Kirill Serebrennikov a été prolongée jusqu'au 19 juillet. Le réalisateur et quatre de ses anciens collaborateurs encourent jusqu'à 10 années de prison.
Et maintenant, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Moscou, Daniel Valo. Bonjour.
Bonjour.
On l'a entendu dans votre reportage. Le film Lieto, donc de Kirill Serebrennikov, est sorti jeudi en Russie. Une sortie nationale en dépit de l'assignation à résidence de son auteur.
Oui, exactement, et vous l'avez entendu hein, lors de l'avant-première, bon nombre de spectateurs sont venus voir ce film pour apporter leur soutien en quelque sorte au réalisateur russe. Il y avait également beaucoup de curiosité et d'attente pour le film en tant que tel, car le sujet du film passionne toute cette génération de Russes qui a grandi avec cette musique. C'est très important à comprendre. Le groupe Kino, dont la naissance est retracée dans ce film, est un groupe absolument majeur pour les Russes qui ont grandi dans les années 80 et 90. C'est un peu l'équivalent du groupe Téléphone en France, un groupe qui n'a pas vraiment marché en dehors de son pays, mais qui est resté dans la mémoire collective comme un groupe absolument culte. Il y avait donc beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce film.
Et la presse russe, Daniel, que dit-elle de la sortie de Lieto ? Est-ce qu'on en parle dans les médias ?
Eh bien, écoutez, oui, hein, malgré la situation de son réalisateur, la presse fait écho largement de la sortie du film, avec des critiques souvent élogieuses d'ailleurs. Le film n'a pas souffert, semble-t-il, de la situation de Kirill Serebrennikov. Il bénéficie d'une sortie nationale, il sort dans plusieurs centaines de salles et son avant-première s'est déroulée dans l'un des plus grands cinémas de Moscou. La presse évoque aussi les reproches formulés par plusieurs musiciens qui ont vécu à cette époque, dans les années 80, et qui regrette les libertés prises par Kirill Serebrennikov sur la réalité historique de cette scène rock de Leningrad. Alors c'est un reproche quasiment incontournable lorsque le cinéma s'inspire de faits réels. Et d'ailleurs, Kirill Serebrennikov en joue admirablement dans son film en s'amusant à l'avance des reproches qui pourraient lui être faits à ce sujet.
Kirill Serebrennikov donc toujours assigné à résidence. Quelle est, Daniel, la prochaine échéance pour le réalisateur ?
Eh bien, l'assignation à résidence de Kirill Serebrennikov a été prolongée jusqu'au 19 juillet. Pour l'heure, les avocats du réalisateur examinent les pièces qui ont été versées au dossier par les enquêteurs et l'on devrait donc rentrer dans la phase du procès qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Pour l'heure, le réalisateur est obligé de rester chez lui à son domicile moscovite, sans accès à Internet et sans avoir le droit de s'exprimer publiquement.
Merci Daniel Valo.
Tous les cinémas du monde.
Et on termine notre tour du monde à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Vous le savez, un grand projet de reconstruction d'une salle de cinéma, le Ciné Guimbi, est en cours, emmené par le cinéaste helvético-burkinabé Bernie Goldblatt, auteur du film Walaï, dont on s'est largement fait l'écho dans l'émission. Bernie Goldblatt vient tout juste de lancer une campagne de crowdfunding pour récolter l'argent qui permettra de fermer le chantier et de lancer une seconde phase de travaux.
Le chantier a bien avancé. Le gros œuvre de la petite salle est terminé. Et donc aujourd'hui, on a une phase où on doit sécuriser le chantier. On doit fermer donc toute la salle pour pouvoir aller de l'avant.
Donc pour sécuriser le chantier, vous lancez une campagne de financement participatif ?
Absolument. Donc entre le 8 juin et le 16 juillet, on lance sur la plateforme Ulule un financement participatif où tout un chacun peut se connecter et aider à la mesure de ses moyens, entre 1 euro et 10 000 euros, la poursuite du chantier du Ciné Guimbi. Il y aura évidemment des contreparties. Par exemple, en donnant 1 euro, ben, on finance une place pour un jeune de Bobo lorsque la salle sera ouverte. Comme on aura deux salles, on a 498 sièges en vente. Une bonne partie de ces sièges ont déjà été vendus, mais il reste encore des sièges qu'on va mettre en vente durant la campagne. Durant ces 40 jours, on pourra découvrir un peu les personnalités aussi qui nous soutiennent, Aïssa Maïga, Sonia Roland. On a aussi Rukieta Ouedraogo. Donc on espère que d'ici quelques années, il y aura vraiment tout un réseau de salles de cinéma indépendants en Afrique de l'Ouest.
Voilà, Bernie Goldblatt qui espère pouvoir ouvrir la petite salle du Ciné Guimbi en mars prochain à l'occasion de la reprise des films primés au FESPACO, donc la reprise à Bobo-Dioulasso. Si vous voulez participer, il faut vous rendre sur le site Ulule ou sur le site internet cineguimbi.org ou encore sur tous les pages des réseaux sociaux pour le Ciné Guimbi. 17 nouveaux films font leur apparition en salle ce mercredi. Trois visages de Jafar Panahi et Football Infini de Corneliu Porumbuyu que nous vous recommandons chaudement. Mais ceux qui risquent de tout écraser sur leur passage cette semaine, eh bien, ce sont les dinosaures de Jurassic World.
The island is dying. The dinosaurs must be preserved.
How many can you save?
11 species. Blue is the last of her kind.
You'll never capture her.
We thought you might know someone who could help. A rescue op. Save the dinosaurs from an island that's about to explode. What could go wrong?
Blue is alive. You raised her.
Ils ont disparu il y a 66 millions d'années, mais cela fait 25 ans maintenant qu'ils revivent sur le grand écran. Les dinosaures, bien sûr, sont de retour dans le film Jurassic World qui sort ce mercredi sur les écrans français. Spielberg, en 93, hein, on s'en souvient, avait adapté le roman à succès de Michael Crichton qui montrait des scientifiques en fait recréer les animaux préhistoriques à partir de leur ADN fossilisé. Après deux suites, la série a repris avec de nouveaux personnages en 2015. Jurassic World Fallen Kingdom, donc Jurassic World, le royaume
perdu.
S'il sort aujourd'hui et exploite un filon très rentable.
Alors dans l'histoire, les dinosaures recréés par l'homme risquent une seconde extinction. Ils sont parqués sur une île au large du Costa Rica et ils risquent d'être engloutis par l'éruption imminente d'un volcan. Owen et Claire, le couple vedette du volet précédent, donc du film de 2015, vont tout faire pour les sauver.
Blue.
We've entered a new era. Genetic power has been unleashed.
Alors je ne vais pas vous mentir, Elisabeth, hein, le scénario multiplie les situations attendues, les dialogues téléphonés, les scènes d'action pour plaire à un jeune public. Les deux acteurs principaux, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ne brillent pas par la finesse de leur jeu. Mais le film remplit quand même sa mission de blockbuster pétaradant. Le réalisateur, c'est l'Espagnol Juan Antonio Bayona, qui s'était fait connaître avec des films d'horreur comme L'Orphelinat. Il a voulu rendre le film plus effrayant que les précédents. Alors pour les effets spéciaux, il combine images de synthèse et animatroniques, hein, ces dinosaures animés à distance. Résultat des séquences très crédibles qui impressionneront les plus jeunes. Il y a 3 ans, Jurassic World avait rapporté à Universal plus d'1 million $1,600,000,000, 10 fois plus que ce qu'il avait coûté. La reprise de la saga prouve bien que Hollywood, hein, mais enfin ça fait plusieurs mois qu'on le dit, plusieurs années même, préfère désormais exploiter des franchises rentables plutôt que prendre des risques artistiques.
Ça ne surprendra personne, Sophie.
Et vous, Elisabeth, vous nous recommandez un documentaire que vous avez adoré, Eddie Lamar, de l'extase au Wi-Fi, d'Alexandra Dean.
Oui, enfin j'ai surtout adoré parce que l'histoire d'Eddie Lamar est exceptionnelle. Alors Eddie Lamar, les cinéphiles voient à peu près qui c'est. C'est une actrice de l'âge d'or d'Hollywood avec des yeux immenses, des cheveux noirs, un visage d'un ovale parfait. Bref, elle était considérée comme la plus belle femme du monde.
One of the most glamorous stars the show business ever has produced,
and one of the most beautiful women in the world,
Eddie Lamar.
Voilà, Eddie Lamar, elle a servi de modèle pour Blanche-Neige, hein, avec ses cheveux noirs corbeaux, ses grands yeux bleus. Elle a inspiré aussi le personnage de Catwoman. Mais qui le sait, Eddie Lamar a été aussi une scientifique de génie, l'inventeuse pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un système de transcription cryptée qui a été le précurseur du Wi-Fi, du Bluetooth et du GPS.
Et alors la cinéaste Alexandra Dean est tombée presque par hasard sur 4 cassettes, hein, l'enregistrement d'une longue interview d'Eddie Lamar accordée à un journaliste en 1990.
Oui, donc c'est la voix de l'actrice vieillissante, hein, qui nous guide dans le film. C'était sa dernière interview et donc elle nous livre les détails de sa vie incroyable. Premier film tourné en Autriche, dont le très sulfureux Extase, où elle apparaît nue et simule un orgasme. C'est la première fois au cinéma, ça fait scandale. Elle a 19 ans, elle fait un riche mariage avec un marchand d'armes proche de Hitler. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle part clandestinement, elle s'évade, hein, de son pays, où elle est menacée. Alors on comprend qu'elle tente autant d'échapper à son mari tyrannique qu'aux nazis, hein, puisqu'elle est juive. Et puis, elle arrive à Hollywood, elle est repérée par Louise B. Mayer, hein, de la MGM. Elle va faire une ascension spectaculaire dans le Hollywood des années 40. Le jour, elle joue les femmes fatales devant la caméra de Cécile B2000 et de King Vidor. Elle est la Dalila, hein, entre autres, du Sanson et Dalida de Cécile B2000. Et la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente un système de cryptage permettant de télécommander les torpilles. Elle espère ainsi contribuer à l'effort de guerre. Sauf que c'est une femme, c'est la femme fatale de Hollywood. C'est un sex symbole. Voilà, c'est cette femme magnifique que personne ne prend au sérieux. Et donc, les décennies suivantes vont être une longue chute pour Eddie Lamar. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de drogues, d'alcool, de mauvais films. Alors, ce qui apparaît un peu à peu dans le film, c'est que c'était une femme pas facile, hein, ses enfants en témoignent, mais surtout elle a été broyée par le patriarcat et sa fin de vie sera vraiment tragique, à la fois solitaire, précaire, recluse. C'est seulement dans les années 90 qu'un magazine, Forbes, va remettre en lumière ses inventions, mais bien sûr il est trop tard. Eddie Lamar mourra dans la misère, abandonné de tous le 19 janvier 2000. Et c'est un film...
C'est trop triste.
C'est très triste, mais en même temps, c'est une histoire admirable et puis qui permet aussi de revenir sur Hollywood, mais alors pas la machine à produire des stars, plutôt la machine à broyer des êtres.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, la chanson du générique de fin, justement, de ce documentaire exceptionnel sur Eddie Lamar.
Greed had taken the trees away.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Il y a Kai Bio, la femme chat vengeresse, la terrifiante Oiwa, Jiangxi, le vampire sauteur chinois ou encore les revenants affamés thaïlandais. Ce sont quelques-uns des fantômes d'Asie qui hantent actuellement le musée du Quai Branly. Le Quai Branly qui leur consacre une exposition jusqu'au 15 juillet. Stéphane Dumenildo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le conseiller scientifique pour le cinéma sur cette exposition car la manifestation mêle documents historiques, œuvres d'art, hein, par exemple des estampes du célèbre peintre japonais Okusai, ou du mangaka Shigeru Mizuki, des sculptures, mais aussi beaucoup, beaucoup d'extraits de films venus du Japon, de Chine ou de Thaïlande. Il y a un mélange. Art savant, pop culture?
Ben oui, tout à fait, puisqu'on se rend compte qu'en Asie, la culture des fantômes est une pop culture, en réalité. Voilà, c'est une culture qui est populaire, qui est partagée, qui est déclinée en manga, en figurines, et évidemment en films d'horreur.
Et c'est un film qui accueille d'abord le visiteur Jigoku, l'enfer de Nobuo Nakagawa.
Ningen wa shi wo nogareru koto wa dekinai.
Ne, konya mo hito atte.
Sei to shi no sakai wo totte, omae wa ore to issho ni.
Stéphane Dumenildo, pourquoi avoir choisi deux extraits donc de Jigoku, l'enfer de Nobuo Nakagawa, hein, c'est un film psychédélique des années 60, pour accueillir le spectateur dans cette exposition Fantômes d'Asie?
Ben, on voulait lui faire traverser justement les fleuves, le fleuve des enfers, pour entrer dans l'exposition, et puis on voulait le faire entrer dans une période particulière de l'histoire du cinéma japonais, c'est-à-dire cette fin des années 50, qui est un âge d'or du cinéma d'horreur, et le laisser guider par peut-être ce qui est le plus grand cinéaste d'horreur japonais, qui est donc Nobuo Nakagawa. C'est lui qui a remis au goût du jour les figures de fantômes féminins comme Oiwa-san, qui a fait les plus beaux films de femmes chats, et qui a donc fait ce chef-d'œuvre absolu qui est L'Enfer, qui est un des films les plus dingues, hein, je pense, de toute l'histoire du cinéma. Parce que je crois que c'est le seul film où toute la distribution, c'est-à-dire une quarantaine de personnes, meurt à la moitié du film, de manière diverse, empoisonné, suicide, enfin tout ce qu'on veut, et se retrouve aux enfers. Voilà. Donc il y a vraiment deux parties dans le film, la partie réaliste, mais qui est gouvernée par l'absurde, hein, puisque c'est un film bon qui se réfère à la tradition bouddhiste, mais qui emprunte beaucoup à l'existentialisme français, à Camus. Voilà comment on se retrouve dans un monde qui est complètement insensé, qui n'a plus de sens, qui est absolument absurde, et comment finalement ce qui lui donne un sens, ce sont les enfers.
Voilà. Donc c'est la version asiatique ou japonaise de l'enfer de Dante?
On peut dire ça, disons que oui, c'est un enfer très très haut en couleur, hein, puisque c'est à la fois, un enfer mythologique, hein, qui ressemble beaucoup aux peintures, avec des démons rouges, musculeux, avec des qui envoient les damnés à l'intérieur de mares de feu. Mais c'est aussi un cabaret érotico jazzy japonais, voilà, avec des monochromes rouges et des filles nues qui dansent. Et puis c'est aussi le premier film gore, hein, de toute l'histoire du cinéma. Puisqu'on voit réellement les tortures, on voit des gens se faire écorcher en hurlant, voilà. Donc c'est un film, vraiment c'est à la fois un film très très beau et totalement, totalement exubérant.
Donc ce sont ces extraits qui accueillent le visiteur donc au tout début de l'exposition Fantômes d'Asie, et après il y a une explication donc des enfers dans l'univers bouddhiste, hein, puisque l'Asie majoritairement on peut dire et de culte bouddhiste, même s'il y a des sensibilités différentes ou des ramifications différentes, hein, on peut pas totaliser, c'est un immense espace culturel en fait que vous abordez entre le Japon, la Chine, la Thaïlande.
Oui, bah en effet, hein, c'est un bah oui, ce territoire des fantômes asiatiques est en effet aussi immense que l'Asie elle-même. Alors les enfers, c'est vrai que les enfers sont très très particuliers puisqu'ils sont différents de notre culture, parce que nous, quand on va en enfer, ben on y va pour l'éternité, hein, c'est ce qui fait peur à tout le monde, de se retrouver tournant dans les mers de feu, comme on l'expliquait au catéchisme, pour toujours, tandis que les enfers asiatiques sont plutôt des purgatoires, ils sont transitoires, c'est-à-dire qu'on y reste le temps d'attraper sa prochaine réincarnation. C'est un peu comme quand on est dans un manège et qu'on essaie d'attraper un pompon, hein. C'est ça. Et donc voilà, quand on arrive à attraper la réincarnation, on peut sortir des enfers et renaître. Donc il y a quelque chose, même s'ils sont terribles, hein, même si ce sont des enfers de souffrance absolue, malgré tout, il y a quand même l'espoir de pouvoir faire mieux à la prochaine vie.
Autre film délirant, mais complètement différent. Là, il s'agit de Ex, Stéphane Dumenildo. Alors, je donne le titre anglo-saxon. C'est un film hongkongais de 1980, signé Kwei Chi-hung, mêlant, écrivez-vous, les diaboliques de Clouseau, les films de fantômes japonais, une folie macabre.
Oui, c'est comme si dans les diaboliques, au lieu que ça soit un faux fantôme, ça soit un vrai fantôme. Voilà. Donc oui, c'est un mélange complètement délirant. Il y a une progression dans l'exposition, c'est-à-dire que lorsqu'on est au Japon, les fantômes sont des images au Japon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les fantômes et les vivants. Il n'y a pas d'interaction physique, hein. C'est un peu, on dirait, des fantômes sans contact. Et donc c'est cette image qui terrifie, qui est pétrifiée, qui fait mourir de peur. Donc ils sont déjà très très proche du cinéma, en fait. Et plus on progresse dans l'exposition, plus ces fantômes commencent à prendre corps, hein, commencent à prendre chair et une matérialité. On a les fantômes de Thaïlande, voilà, où là, il y a carrément un contact, puis ce sont des fantômes qui peuvent éventrer, voilà, dévorer, faire des choses absolument affreuses. Et puis, on a les fantômes chinois, donc dont les fameux Jiangxi, hein, les fantômes, les vampires sauteurs, hein, puisqu'on leur a ligoté les chevilles pour pas qu'ils sortent de leur tombeau, mais comme ils sont sortis, et donc ils avancent en sautillant comme ça. Et donc avec eux, il y a un contact réellement physique, puisqu'on se bat en faisant du kung-fu. Voilà, donc dans notre scénario, il y avait cette idée, voilà, de les rendre de plus en plus matériels. Et puis voilà, lorsqu'on arrive en Chine, c'est vrai que c'est des films très très drôles. En tout cas, les films de vampires sauteurs, c'est des comédies qu'on pourrait rapprocher d'une sorte de commedia dell'arte chinoise, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'opéra de Pékin. Voilà, il y a des combats complètement fous entre des combattants de kung-fu et ces vampires sauteurs. On appelle ça la kung-fu zombie comédie.
Vous parliez d'un sous-genre du cinéma hongkongais, Stéphane Dumenildo, la kung-fu zombie comédie. On a le sentiment, alors on va y revenir après pour le cinéma japonais que je mets à part, mais que en ce qui concerne les fantômes représentés dans le cinéma chinois ou thaïlandais, il y a beaucoup de séries Z. Est-ce que c'est lié à quoi, une différence de représentation?
C'est lié à la production aussi, hein. C'est-à-dire que bah, ils sont très consommateurs d'images, hein. Bien avant qu'il y ait la 3D à Hollywood, ils ont fait énormément de films de fantômes en 3D dans les années 90, début 2000. Et surtout, il n'y a pas d'inhibition par rapport aux représentations. C'est-à-dire que, en effet, ce sont des fantômes violents, ce sont des fantômes gore qui éventrent, des têtes volantes comme Crassou, voilà, qui volent avec leurs intestins, qui vont dévorer les enfants. Donc, il y a une façon de représenter qui est extrêmement brute. Il y a quelque chose de l'art brut. Et puis voilà, donc l'art brut et la série Z se ressemblent beaucoup puisque les trucages sont très sont un peu archaïques, pas super bien faits, on a l'impression que c'est des collages. Mais c'est pas forcément des séries Z drôles, hein. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans un effet de premier degré. On peut imaginer que ça fasse vraiment peur aussi au public thaïlandais. Je pense que c'est lié à ça, une totale désinhibition par rapport aux représentations, alors ce qui nous surprenne, nous, hein, parce qu'on peut pas difficilement imaginer qu'un film puisse être à la fois religieux, spectaculaire, gore, etc. Mais apparemment, ça marche bien en Thaïlande.
Est-ce que c'est lié aussi à la religion? La présence des fantômes, ou en tout cas à la culture, les fantômes sont parmi... les fantômes vivent avec les vivants, en général en Asie, si on peut dire ça. Est-ce que c'est peut-être trop globalisant par rapport à des sociétés occidentales plus cartésiennes?
Ben, disons que lorsqu'on voit un film fantastique, un film fantôme occidental ou américain, il y a une partie du film qui est consacrée à dire oui, ces fantômes existent bien, c'est pas des problèmes de tuyauterie ou des choses comme ça. Donc voilà, donc il faut faire des expériences, amener des médiums qui vont d'un coup se dire oui, en effet, il y a des fantômes dans cette maison. Tandis qu'au Japon ou en Asie, en général, on ne discute pas la présence du fantôme. Le fantôme est là, de toute façon. La possibilité du fantôme est tout à fait... voilà, c'est concret, quoi.
Et c'est pour ça que le fantôme est aussi présent dans tous les genres cinématographiques au Japon. C'est-à-dire, ça va des contes de la lune vague de Mizoguchi à des films d'horreur, voire, j'imagine, aussi à des comédies romantiques.
Ah oui,
ça traverse tout, comme ça traverse toute la société.
Oui, en effet, il y a une permanence hein, des fantômes à travers les âges. Et puis, il y a aussi une permanence du fantôme à côté de nous, quoi, en fait. Si vous racontez une histoire de fantôme en France, on va vous prendre soit pour un grand naïf ou quelqu'un d'un peu dérangé ou superstitieux. L'histoire de fantômes au Japon, ben voilà, pendant Oiwa, c'est-à-dire en août, hein, la saison des fantômes qui correspondrait un peu à l'Halloween occidental, donc qui s'appelle Obon Dori. Les gens se racontent leurs histoires de fantômes. Il fait très chaud, donc le soir, on prend une bière dans un petit bar. Et puis voilà, on se commence à dire, ah oui, quand j'étais petit, j'ai vu un fantôme, ou ma mère a vu un fantôme, ou j'en ai vu un hier. Voilà, et donc ce sont des histoires qu'on se raconte entre amis, qu'on se raconte autour d'une bière. Et ça ne viendrait pas à l'esprit de dire, ah oui, il est peut-être un peu fêlé, celui-là. Non, non, voilà, on y croit.
Alors on va rester un peu au Japon, hein, puisque effectivement c'est en termes de production cinématographique, c'est il me semble le pays avec le plus grand nombre de films sur les différents types de fantômes. Parlons tout d'abord, vous l'avez cité, de Oiwa, hein, dont la représentation a été fixée dans des estampes, je crois, au XVIIIe siècle, la première représentation.
Alors le Oiwa, c'est une rumeur au départ, hein, qui naît aux alentours de 1700. C'est une rumeur qui est colportée par des marchands. Alors cette rumeur, je ne sais pas exactement ce qu'elle racontait, mais je pense qu'elle racontait la première partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'une joueuse de biwa, c'est une guitare japonaise, avait été poussée au suicide par son mari, un samouraï déclassé, qui s'appelait Yemon, parce que son mari voulait se remarier avec la fille d'un seigneur. Voilà, donc c'était plus avantageux pour lui de se d'épouser la fille d'un seigneur que de rester marié avec une musicienne. Donc c'est un arriviste, ça le personnage en tout cas. Et donc il la pousse au suicide. Voilà, je pense que la légende devait se limiter à ça. Et ensuite, cette légende a été transformée en pièce kabuki, qui a ajouté un élément fantastique, c'est-à-dire la revanche d'Oiwa-san qui vient réclamer justice et rétribution d'entre les morts et pousser son mari à la folie.
Et donc, c'est le théâtre kabuki ou les estampes qui ont fixé aussi l'esthétique, la représentation physique d'Oiwa, est-ce que vous pouvez la décrire?
Oui, ben, Oiwa, c'est une femme aux vêtements blancs, tachés, aux cheveux dépeignés qui tombent sur le visage, et au visage à moitié défiguré, puisque donc son mari lui a fourni des mascaras avec de l'arsenic pour la défigurer et la rendre folle. Donc il y a une scène très célèbre hein, de cette pièce de théâtre. On voit Oiwa qui se peigne, ses cheveux tombent, et puis elle regarde son visage, et son visage est déformé. Elle voit son visage dans un miroir. Donc ça, c'est une scène classique de l'horreur japonaise. Et l'apparence d'Oiwa va être l'apparence matricielle. Moi, je dis qu'Oiwa, c'est la mère des fantômes japonais, mais c'est vrai que toute lui ressemble. Sadako, hein, le personnage de Ring, évidemment, est une variation sur Oiwa. Elle a aussi un vêtement blanc, elle a aussi les cheveux qui tombent sur le visage et un œil exorbité. Voilà, donc ça c'est l'apparition du... c'est pas l'apparition du fantôme féminin, mais c'est le fantôme le plus populaire encore aujourd'hui au Japon.
Et il faut attendre 1959 et Histoire du fantôme japonais, je crois, de Nobuo Nakagawa, pour que Oiwa soit la première fois, enfin l'héroïne d'un film...
Pas tout à fait, en fait les pièces de Kabuki sont adaptées dès les premiers temps du cinéma, donc dès les années 1907-1908, on commence à tourner des adaptations de... qui s'appellent... Tokaido Yotsuya Kaidan, hein, histoire de fantôme du mari de Tokaido. On commence à tourner des adaptations et on va en tourner une trentaine en fait, hein, beaucoup de films sont perdus. Mais Nobuo Nakagawa donne la plus belle représentation et surtout la première représentation en couleur. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les marais verdâtres, on voit la brume qui flotte, on voit le visage défiguré, violacé de d'Oiwa et surtout on voit ce visage terrifiant, on le voit en gros plan, ce qui n'était pas... donné, évidemment, aux spectateurs du Kabuki. Donc là, les cinéastes commencent à se rendre compte du pouvoir de l'horreur, en fait, que leur donne le cinéma.
Et vous l'avez cité, jusqu'à l'avatar le plus moderne, le plus récent, Sadako, l'héroïne maléfique du film Ring, qui a terrifié en 1999 des millions de spectateurs dans le monde, donc dans Ring.
ここ入ったら呪われて死んじゃう家なの。貞子を見たのか。ねえ、何してるの。ここにいるのは加代子、敏夫、何する気。どうやって私たちを助けてくれるの。化け物には化け物をぶつけんだよ。
Un extrait de Ring de Hideo Nakata, Stéphane Duménildo. C'est un film donc qui reprend la figure d'Oiwa en l'adaptant à l'époque moderne de façon très réaliste, hein, puisque c'est une légende urbaine, hein, qui est ainsi relatée, des jeunes ayant vu par hasard Sadako, donc dans un enregistrement à la télévision, dans un enregistrement sur une cassette, meurt 7 jours après. Et ça a terrifié le monde entier, ça a cartonné partout.
Oui, c'est une révolution dans la représentation des fantômes japonais. Et très intelligemment, Nakata, il va vraiment faire une transition entre le fantôme classique et son fantôme contemporain. C'est-à-dire que dans les fantômes classiques, souvent les fantômes sortent de puits. Et lui, donc, dans le film, sur la cassette vidéo, il va d'abord faire sortir Sadako d'un puits, et puis ensuite de la télévision. Donc il relie vraiment les deux époques. Et une des grandes différences aussi avec les fantômes classiques, c'est que par exemple, Oiwa-san cherche à demander justice et à se venger de son mari. Par exemple, le fantôme a une vengeance déterminée contre quelqu'un qui lui a fait du mal. Tandis que dans les fantômes modernes, là, ça change complètement. C'est une hantise virale, comme une contamination. C'est-à-dire que les jeunes qui voient la cassette de Ring ne sont pas du tout responsables de la mort de Sadako. Et de la même façon, dans la série des Juon, il suffit de passer quelques instants dans la maison hantée de Kayako. Hein, Kayako, c'est la femme au foyer de l'horreur japonaise, donc elle protège sa maison avec son petit enfant là, Toshio, le petit enfant bleuté là. Bon, il suffit de passer une seconde dans cette maison pour se retrouver maudit, même si on n'est pas du tout responsable de la mort de cette femme. Donc il y a quelque chose qui a trait une malédiction, une peur aveugle qui fonctionne de façon virale. Alors moi je me suis demandé pourquoi justement on a ce changement. Et j'ai eu quelques hypothèses. Alors une de mes hypothèses, c'est évidemment la peur millénariste, c'est-à-dire qu'on est entre 95 et 99 quand la J-horror commence à se former. Donc on est tout près de la fin du millénaire, donc ça crée déjà une angoisse. Il y a eu plusieurs événements au Japon assez inquiétants. Il y a eu le crash boursier, donc l'éclatement de la bulle économique qui d'un coup a appauvri des Japonais qui pensaient que l'enrichissement et la prospérité seraient éternelles. Il y a eu le tremblement de terre absolument meurtrier aussi, et il y a eu surtout l'attentat au gaz sarin dans le métro par la secte Homme. Donc ce sont des gens qui de cette secte qui sont allés dans le métro, qui ont ouvert des bocaux et qui ont libéré du gaz sarin, qui ont fait des morts et des milliers de blessés. Et ce gaz sarin avait la particularité d'obscurcir la vision. Et on se rend compte que ces films de l'horreur japonaise, de la J-horror comme on dit, l'horreur contemporaine, ont une photo extrêmement sombre et grisâtre. Donc ça c'est quelque chose qui peut venir de façon même inconsciente hein, de cet attentat. Et puis il y a aussi l'idée que on est dans le métro et le monstre c'est pas Godzilla qui va piétiner la ville, c'est pas un fantôme forcément spectaculaire, ou c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. C'est un anonyme parmi tous les gens qui vont prendre le métro à Shinjuku Station ce matin-là. Et cette personne complètement anonyme, ben, elle va disperser la mort à l'intérieur du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa. Par exemple, dans Cairo, où il y a aussi cet univers qui est extrêmement sombre, où les fantômes apparaissent dans des petits appartements. Voilà, donc on est passé de quelque chose qui était le fantôme, un peu l'équivalent d'un gothique japonais, où le fantôme apparaît devant des temples, apparaît au-dessus de marais, de marais, cages, brumeux, à un fantôme qui apparaît dans un ascenseur. Et ce qui fait vraiment peur, je pense, c'est ça. Hein. C'est le fantôme, on est dans un ascenseur, et puis il y a quelqu'un qui se retourne et puis on se rend compte qu'il n'a presque pas de visage, voilà, ou qu'il n'a pas de pied, qui vole au-dessus du sol. Voilà, ça fait vraiment peur.
Mais cette idée de l'ennemi intérieur, donc, est invisible, je ne peux pas m'empêcher de penser au nucléaire aussi.
Tout à fait.
L'idée de la mort qui arrive de façon invisible, impalpable.
Tout à fait, bien
infilmable
sûr.
Infilmable même.
Tout à fait, ben oui, ça c'est quelque chose qui hante complètement le cinéma des fantômes après la Première Guerre mondiale. Hein. Lorsque Oiwa se peigne et perd ses cheveux, même si ça faisait partie de la pièce, de toute façon la pièce Kabuki, ça prend une autre résonance après Hiroshima, puisque ben voilà les victimes qui ont des cancers perdent aussi leurs cheveux, ont des tumeurs ou ce genre de choses. Et évidemment chez les grands cinéastes comme Kiyoshi Kurosawa, il y a cette peur. Moi, je me souviens, j'avais rencontré Kiyoshi Kurosawa, c'était quelques jours après l'accident de Fukushima. Il m'avait dit, ben oui, j'avais l'impression de voir les images de Cairo.
Alors, on comprend bien que ces films puissent évidemment séduire un large public au Japon, notamment. Hein, la J-horror, c'est aussi un genre, et ces films ont été très, très populaires. Mais au-delà, ils se sont exporté. Est-ce que c'est lié aussi au fait d'une sorte d'hybridation des formes? J'en veux pour preuve que dans le catalogue de l'exposition, Stéphane Duminendo, on peut lire l'interview que vous avez réalisée du scénariste de Ring, Hiroshi Takahashi. Et il fait référence, par exemple, dans ses influences pour ce film, à des films hollywoodiens. La Maison du Diable de Robert Wise, Les Innocents de Jack Layton. Il mélange comme ça différentes formes d'influence. Est-ce que ça peut permettre aussi d'expliquer que les films se soient largement diffusés?
C'est réel que avant Ring, mais aussi quelques films qui sont apparus à cette époque, comme les films de Shyamalan, qui de toute façon a un côté asiatique, hein, comme Sixième Sens, les films d'épouvante ne faisaient plus peur, en fait. Les films d'horreur américains ne faisaient plus peur. On est arrivé un peu à la fin de la série des Scream, par exemple. C'est une horreur beaucoup plus très réflexive. Donc, on n'était plus dans le premier degré. Et puis, quelque chose qui avait trait au comique, à la parodie. Et d'un coup, on a vu revenir des films d'horreur qui faisaient vraiment peur. Je pense que l'apparition de Sadako à la fin de Ring est quelque chose qui est complètement tétanisant, hein, cette grande figure immobile, la caméra qui se rapproche en jump cut de son œil. Voilà, d'un coup on se retrouvait face vraiment à une horreur, on pouvait pas rigoler de ça, on pouvait pas le prendre du côté voilà, on est un peu affranchi, ça fait rien. Non, c'était honnêtement terrifiant. Et donc c'est pas étonnant que voilà, ça vienne aussi de films qui étaient les plus terrifiants, hein, de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire en effet La Maison du Diable, en effet Les Innocents, avec ce côté très à la Jacques Tourneur aussi, de faire apparaître les fantômes, de jouer sur le hors-champ, aussi de jouer sur certains décors contemporains.
Alors, on n'aura pas le temps de passer en revue tous les fantômes japonais, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une autre figure avant qu'on se quitte dont j'aimerais qu'on parle, c'est la figure de la femme chat. On parlait de Kai Bio. Alors, vous parliez vous-même de Jacques Tourneur, mais il n'y a pas de rapport entre la femme chat Kai Bio et la féline.
Je pense pas qu'il y ait eu une connaissance de Tourneur de ces films-là. Et je pense pas qu'il y ait eu à l'inverse une connaissance du côté des cinéastes japonais du film de Turner. En plus, il y a des films de femmes chats qui datent des années 30. Je pense que son apparition vient surtout d'un manque qu'il y avait à l'intérieur de la culture japonaise, qui était le vampire. Voilà, le vampire, c'est quand même un personnage judéo-chrétien ou catholique, donc qui fonctionne avec des croix, des hosties, des choses comme ça. Mais c'est un personnage qui est quasiment inexportable au Japon. Et donc, les films de vampires marchaient très bien à Hollywood, évidemment. Il y avait les Dracula avec Bela Lugosi, il y avait les films de loups-garous aussi. Donc, il y avait le désir, peut-être, par les cinéastes japonais, de trouver une figure qui soit un peu équivalente aux vampires ou aux loups-garous. Et donc, la femme chat, elle entre assez bien dans ce principe. Alors, c'est une créature très bizarre, hein, parce que c'est un esprit plutôt, un esprit qui est convoqué justement encore par la mort d'une femme. C'est très très présent au Japon. C'est un seigneur qui convoite une jeune épouse, et pour s'approcher d'elle, il commence par liquider son mari. Et puis ensuite, il va la violer. Donc cette jeune femme se suicide et le chat de la maison va aller laper son sang. Et le chat va faire appel à cet esprit qu'on appelle donc le Bakeneko, le chat démon, qui va donc venir sur Terre, prendre l'apparence d'une vieille femme et s'introduire à l'intérieur de la maison du Seigneur. Donc elle va arriver plus ou moins à se venger. Mais malgré tout, ça reste un chat, c'est ça qui est très intéressant. Et comme dit Chris Marker, donc qui adorait les femmes asiatiques, qui adorait les chats, et donc il ne pouvait qu'aimer les femmes chats, il dit la femme chat en fait trop à un moment. Voilà, elle n'arrive pas à se contrôler, donc elle agit vraiment comme un chat, et elle commence à vouloir tuer un peu tout le monde dans la maison, à s'amuser comme un chat s'amuse avec des souris ou des lézards. Et donc là, il faut l'arrêter. Et puis donc c'est un jeune samouraï au cœur pur qui va un peu lui dire voilà, retourne dans ton
l'ordre.
Oui, qui va rétablir l'ordre, oui.
Et ça, c'est une figure, la femme chat, vous écrivez que Tim Burton s'en est inspiré pour le personnage de Catwoman.
En revanche, oui, Tim Burton est très, très, très connaisseur de la culture fantastique japonaise. Et en effet, Catwoman, Selena Kyle, fonctionne de la même façon. Elle est assassinée par un seigneur qui la pousse du haut d'un donjon, presque. Et elle est ranimée par une meute de chats qui viennent la lécher. Donc elle renaît en Catwoman.
Donc voilà, on pourrait parler aussi de la femme des neiges. Enfin, il y a souvent d'ailleurs des femmes, hein, des fantômes de femmes. Je ne sais pas si c'est lié à la société traditionnelle, conservatrice, patriarcale japonaise.
Bah souvent, hein, dans le fantastique, ce qu'on n'arrive pas à obtenir dans la vie réelle, ça vient de l'au-delà, quoi. Il y a une rétribution, en tout cas une catharsis qui se manifeste dans les contes et dans les films d'horreur. Alors oui, on tenait dans l'exposition à faire apparaître un fantôme. Voilà, faire apparaître de vrais fantômes à l'exposition pour que le spectateur ait un peu cette expérience. Et on a donc demandé à une danseuse, une musicienne, une danseuse de buto japonaise qui s'appelle Yoko Higashi, d'interpréter plusieurs fantômes dans l'exposition. Donc c'est elle qui interprète la femme chat qu'on voit se transformer en ombre chinoise. Et c'est elle qui interprète l'hologramme d'Oiwasan qui sort de sa lanterne, voilà, sous la forme d'une fumée, et qui est donc apparaît face au spectateur et qui pousse cette plainte lugubre envers son mari.
Deux installations vraiment très impressionnantes, hein, dans le cadre de cette exposition qui attire beaucoup de monde. Je pense qu'Elisabeth et moi, on peut en témoigner. Merci Stéphane Duménildo. L'exposition Fantômes d'Asie est à voir donc au musée du Quai Branly jusqu'au 15 juillet. Les auditeurs peuvent aussi aller consulter la web-série que vous avez confectionnée, Stéphane Duménildo, avec Yves Montmailleur, qui s'intitule Tokyo Paranormal, donc avec Arte, la section créative d'Arte. Et puis à noter que le musée du Quai Branly consacre un week-end spécial, celui des 23 et 24 juin, à cette exposition, avec des activités, des performances, une chasse aux fantômes en réalité augmentée, ainsi qu'une nuit du cinéma d'horreur sur le toit. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Stéphane Breton pour son documentaire sur les combattantes kurdes, filles du feu. D'ici là, bonne semaine à tous.